L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Chose vraiment horrible.
On frappe à la porte. C'est la bonne qui lui dit « Madame, monsieur Sigouman, bien vos nouvelles. » Elle devient panique. Jean lui dit « Fais-tu entrer ?» Adrien lui dit « Je ne veux pas le voir. » Elle lui dit « Sors de suite. » Adrien sort en vitesse. Et David entre dans la chambre. Frappe-toi, comme d'habitude. Il s'avance vers le lit et embrasse Jean.
Il lui demande « Comment va ta santé ?» Elle lui dit « Assez lasse maintenant. Je crois que ça va aller. Je vais reprendre des forces. » Il lui dit « J'en suis très heureux. » Et Adrien ? Elle lui dit « Il va très bien. Et nous sommes très bien ensemble. » Il en est satisfait. Il lui parle de ses ennuis que la police le surveille. Le fisc ne comprend pas pourquoi tout cet argent qu'elle a donné. Il lui dit aussi, « Tu as de la chance, grâce à moi, tu n'as pas d'ennui. Personne ne te demandera rien sur ta fortune. » Elle lui dit, « Ma fortune ? La vôtre ? Moi, je n'ai rien. Je t'avoue tout ça, puisque c'est pas à mon nom. Et en plus, je vous ai donné 2 milliards. C'est déjà pas mal, non ? Sans vous oublier quelques poussières de millions. Tout ce que j'ai acheté est à votre nom, bien entendu. » Il lui dit, « Je sais très bien que ce qui est à moi est en réalité à toi. » Elle lui dit, « Eh bien, puisque c'est ainsi, je donne tout à Adrien. » Il lui dit avec le sourire, « Si vous voulez. » Il s'en moque, parce que ce qui va à Adrien, va à lui, puisque Adrien est une poupée à ses ordres. Donc, ça ne change rien. Allez, je te laisse.
Puis, une fois qu'il est parti, Adrien va la revoir. Elle lui dit,
« Il faut se méfier de lui. »
Puis lui demande, « Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure ?» Parce qu'il lui arrive, c'est d'avoir des pertes de mémoire. Mais son intelligence est restée la même. Adrien a peur de lui faire du mal. Il ne veut pas lui dire ce qu'il lui a dit, ou lui redire ce qu'il lui a dit. Il dit simplement, « Oh rien, simplement je te disais aussi que je t'aimais beaucoup. » Elle l'embrasse. Elle est heureuse. Au bout de quelque temps, Jean se lève et décide de faire arrêter ses ragots sur la mort de son fils. Comme elle croit que c'est Albert qui est le corbeau, elle va lui demander d'arrêter. Elle le convoque dans son bureau pour faire plus officiel et lui dit « Il faut arrêter ses ragots. Ce n'est pas bien pour les affaires. Il faut laisser Adrien tranquille. Il ne nuit à personne. Écoute, je vais te donner 3/4 des actions du groupe. Et je te promets de ne plus revoir David si tu le laisses tranquille. » Réfléchis, lui dit. Les ragots ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Elle lui dit. Les gens oublient vite. Une histoire croustillante est remplacée par une autre. Sans cela, les journaux, tous les médias seraient en faillite. Tu arrêtes les lettres anonymes et tu m'envoies que tu m'envoies et tu envoies aux médias en leur disant d'arrêter et leur donnant une petite lune rondelette pour qu'ils ne parlent plus de cette chose. Tu dois aussi aller voir le Premier ministre pour lui dire d'étouffer cette affaire et de laisser David. Il lui demande, et Adrien? Elle lui dit, Adrien prendra la succession, comme ça les affaires resteront dans la famille. Il aura tout, mais toi, tu seras le président par intérim, et tu resteras jusqu'à ce qu'il soit formé. Lorsqu'Adrien sera majeur, il pourra prendre la succession, comme je te l'ai dit. Tu seras un des principaux actionnaires et je te donnerai quelques-unes de nos filiales. Parle-en à ta femme. Regarde les papiers que tu as signés. Mais avant qu'il ait fait ce qu'elle a décidé, c'est-à-dire d'arrêter les ragots, il veut en parler à sa femme. En rentrant, il en parle. Et lui dit, il faut signer. Alors il va voir les médias, plutôt les personnes qui financent les médias, c'est-à-dire les banques, et leur demande d'arrêter de parler de la famille Forbini en leur donnant une bonne somme. Puis il va voir le Premier ministre pour lui dire de faire en sorte d'arrêter les enquêtes financières sur sa femme et David Zimbouman. Jeanne écrit à David qu'elle ne veut plus le recevoir désormais à cause du scandale et qu'elle coupe toute relation avec lui. Elle lui dit que c'est la seule façon pour que les autorités le laissent tranquille. David est satisfait. Il a une bonne fortune et puis Adrien est dans sa place et dans la place. Il décide de se faire discret et ne sort plus. Il sort tout de même un petit peu et un soir dans un bar des Champs-Élysées, un bar à la mode, il voit assis au bar une jeune femme dans les 25 ans. Elle est grande, mince, blonde, cheveux qui ondulent, les yeux bleus, lèvres très pulpeuses. Elle porte une robe du soir bleue. Il la trouve très belle. Il se sent vraiment attiré par elle. Là, il ne joue pas un personnage, c'est vraiment qu'il est attiré par cette femme. Il va s'asseoir près d'elle et commande un whisky. Elle tourne la tête vers lui et lui dit « Bonsoir ». Il lui demande « Vous êtes seul ?» Elle lui dit « Oui, hélas ». Il lui dit « Moi aussi ». Soupire et dit « Je suis ruiné ». On m'a tout pris et ma maîtresse a récupéré tout son argent qu'elle m'avait donné. La femme lui dit, un gentil garçon ruiné, comme c'est dommage. Il lui dit, eh oui, c'est la vie. Elle se lève pour quitter le bar. Il lui demande, vous partez déjà? Elle lui dit, oui, je dois rentrer chez moi. Mais si vous voulez, vous pouvez venir. Il termine son verre, paye et la suit. Une fois dehors, il lui demande « Nous allons où ?» Elle lui dit « Avenue de la Grande Armée. » Il lui dit « Eh bien, allons-y. » Elle le mène à sa voiture, qui est une voiture de sport rouge, le fait entrer et met la voiture en route. Elle lui demande, vous n'avez pas peur d'être enlevé par une femme? Il lui dit, j'ai l'habitude. Elle a arrêté sa voiture à venue de la Grande Armée devant un immeuble du 19e très élégant. Elle le fait entrer.
entrer dans son immeuble. Qui en marbre, l'allée est en marbre rose. Le fait monter jusqu'au deuxième étage. Ouvre la porte de son appartement. Éclaire et le fait rentrer. C'est un vaste appartement de 5 pièces, grand standing, avec du marbre sur le sol, les murs, mobilier Louis XVI. Elle le mène au salon. Éclair et fait entrer. Deux portes-fenêtres qui donnent à un balcon. Il y a même une cheminée. Elle lui dit, asseyez-vous. Il va s'asseoir dans un fauteuil. Elle lui demande, vous désirez boire quelque chose? Il lui dit, oui, un scotch. Elle va le lui chercher dans le bar du salon. Revient avec une bouteille et deux verres et fait le service sur une table basse. Tenez, merci. Ils boivent en silence. Elle lui dit, je m'appelle Marguerite Griffe. Margaret, excusez-moi, Margaret Griffe. Et votre nom, jeune homme? Il lui dit, moi c'est simplement David Zibouman. Et en ce moment, je ne fais rien. J'étais dans les affaires immobilières, mais j'ai bien l'impression que ce soit fini. Je suis ruinée. Elle lui dit, moi je suis américaine et je passe mon temps entre Paris et New York, comme ça. Et lui dit, vous en avez de la chance. Elle lui dit, vous croyez, vous savez, je suis souvent très seule, et seule au milieu de ce luxe. Tout ceci a un côté froid. Et vous, vous avez une femme? Bien entendu, à part votre maîtresse, ou vos maîtresses. Il lui dit, non, je n'ai personne. Elle lui dit, alors nous sommes jeunes célibataires. Pourquoi ne pas nous unir? Cela nous ferait du bien et vous chauffera le corps. Il lui dit, oui, puisque nous sommes libres tous les deux, pourquoi ne pas nous amuser un peu? Alors il pose son verre sur la table basse, se lève et il la suit. Elle le mène à sa chambre. Il n'est pas du tout ému. Il pense trop au luxe. Passe une nuit fort agréable au milieu de satin, de plumes et dans les bras d'une très belle femme, libre et gentille. C'est la première fois qu'il fait l'amour avec une jeune femme. D'habitude, c'est toujours avec des vieilles peaux. Ça l'enivre et malgré lui, il en devient amoureux. Le lendemain, ils passent la journée ensemble au lit. Ensuite, elle ne lui dit pas de partir. Lui ne lui dit pas qu'il va s'en aller. Ça lui paraît naturel qu'il reste avec elle. Alors, les jours passent et
Il est resté chez elle. Elle est très gentille avec lui. Ils sortent ensemble au restaurant, vont quelquefois le soir dans les bars, cabarets. Lui, malgré lui, est très pris par elle et son amour lui fait oublier ses histoires d'argent et sa future fortune. Il se sent heureux en se disant qu'il a de la chance d'avoir rencontré une femme comme elle. Elle est douce, gentille et extrêmement belle. En plus, elle n'a pas peur de faire l'amour et des expériences. Il est heureux, elle aussi semble heureuse. Elle l'appelle son petit canard français. Les jours passent et tout se passe bien. Lui semble vivre une grande histoire d'amour et oublie les vieilles peaux. Et puis, un soir, elle se prépare pour sortir dans sa chambre. Il lui demande « Nous allons où ?» Elle lui dit d'une façon très simple « Ce soir, je sors seule. » Il est surpris, ça lui fait mal. Il lui demande « Pourquoi ?» Elle lui dit « Je vais à une soirée de jeunes gens qui ont entre 18 et 30 ans. Tu comprends ? Ce serait gênant pour toi d'être entouré de jeunes. » Cela lui fait très mal. Il ne sait quoi dire. Alors il la laisse partir. Une fois qu'elle est partie, il pense à ce qu'elle lui a dit et se demande s'il n'est plus jeune. Alors il se regarde dans la glace de la chambre et voit qu'il a vieilli. Son corps n'est plus aussi souple, ses cheveux sont un peu dégarnis et il y a quelques petites rides au visage. Il n'a pas vu le temps passer. Se dit avec tristesse que son temps va passer. Il ne pourra plus vivre de ses charmes pour séduire les femmes. L'idée lui vient qu'il pourrait mettre en pleine lumière Adrien, qui lui serait très riche et son corps sera jeune. Il aura un succès terrible et lui en profitera en cachette. Il pourra même offrir Adrien aux femmes en échange de petites sommes s'il va avec elle pour s'entretenir quelque temps avec elle ou la voir pour une somme plus grande dans leur lit. Et même en leur faisant comprendre qu'elles pourront la voir pour toujours. Alors lui pourrait prendre une partie de l'argent d'Adrien qui, elle, lui donnerait. Et en plus, ces femmes, pour le remercier, pourraient le payer en nature. Il pense à tout ça, mais aussi voit le reflet de son visage dans la glace et ça le rend amer. Il se dit qu'il ne peut plus être un bel objet de plaisir, mais un maquereau. Une maquerelle. Ça lui fait mal. Il passe la nuit angoissé, à peur que Margaret lui dise de s'en aller. Ce serait un affront plus terrible que de ne plus se procurer d'argent, parce que ça lui toucherait surtout son orgueil. Mais Margaret revient et reste avec lui parce qu'elle sent qu'il est très riche. Elle a entendu parler de lui dans les soirées. Comme il a peur qu'elle ne veuille plus de lui, lorsqu'elle lui demande de payer au restaurant, c'est lui qui paye. C'est la première fois qu'il paye pour une femme, d'habitude c'est la femme qui paye pour lui. Maintenant, c'est elle qui profite de lui. Lui a peur qu'elle lui dise de partir. Il en a tellement peur que cette peur le rend tellement précieux, la rend tellement précieuse qu'il se met à vraiment l'aimer. Pendant ce temps, les médias ne parlent plus de rien. L'opposition demande des comptes sur l'affaire Vorbini et les rapports avec le pouvoir, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait fini. Jeanne ouvre ses portes au photographe, ou plutôt à un photographe, pour montrer qu'elle est femme qui a toutes les capacités et vit simplement. Les photos sont publiées dans un magazine Peuple. Toutes les personnes qui la voient la trouvent très photogénique et on dit qu'elle ne fait pas son âge, qu'elle a une belle maison, bien décorée. Elle dit à Adrien, même les pauvres aiment les gens riches qui vivent dans de belles maisons. Ça leur fait plaisir et les fait rêver. L'article dit en plus que c'est une femme charmante, etc. En plus, elle est photographiée à ses côtés avec Adrien. Les lecteurs se disent que le fils que le petit-fils et sa grand-mère s'entendent bien. Et disent aussi que le fils de Jeanne et sa belle-fille ont du culot de vouloir tout lui prendre à cette pauvre et brave vieille femme. Albert est furieux. Sa mère lui dit d'arrêter ses ragots et de venir à son invitation. Jeanne fait venir des photographes pour assister à son entrée chez elle. Ça va se passer comme si c'était une entrée du Conseil des ministres. Dans les journaux, les grands titres. Enfin, l'entente familiale est revenue et David Zibouman a disparu. Tout est bien qui finit bien. La famille est photographiée sur le perron de la maison de Jeanne avec le sourire. Jeanne est entre son fils et son petit-fils. Ils ont le sourire et se tiennent par la main. Il est marqué sur la photographie « Deux générations unies par l'amour ». Adrien a très honte de tout ça et se dit qu'il n'est qu'un imposteur qui a pris la place d'un autre. Une fois que tout est fini, Jeanne lui dit « Tout ça c'est de la frime, rien n'a changé, c'est toi qui auras tout ». La chaleur est toujours là, la maladie aussi. Les gens ont tellement peur d'attraper la maladie qu'ils sont prêts à acheter n'importe quoi. Alors, on en profite. Il existe des aliments qui protègent de la maladie, c'est-à-dire de la peste. Il y a des laitages, des fruits, des légumes, des racines, des insectes que l'on doit manger cru ou mélanger avec du vin. Mais là, il faut que l'insecte soit vivant, etc., etc. Et comme ce sont des aliments soi-disant bio et qui protègent de la maladie, ils coûtent beaucoup plus cher que les autres. En plus des aliments, il y a des pommades, des massages, de l'acupuncture et bien entendu des produits biologiques naturels, genre produits fabriqués par des laboratoires Boiron, qui ne fabriquent que des comprimés à base d'eau, sans compter les gris-gris, médecines de sorciers africaines, etc., etc. Tout ce charlatanisme que le monde moderne a mis à disposition des gens parce que les gens ont si peur qu'ils veulent guérir de suite et ils trouvent que la médecine occidentale ne va pas assez vite et qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour que ça aille plus vite. Et puis la mode est soi-disant écolo, donc les soins parallèles marchent à fond. Même les produits Forvini se lancent là-dedans et proposent des crèmes qui protègent de la peste tout en faisant maigrir, en dormant, etc. C'est pour vous passer et pour vous, parce que vous nous êtes précieux. Mais tout ceci n'empêche pas la peste de continuer à tuer. Et puis même si ces choses marchaient, comme il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas suffisamment pour vivre et ne peuvent pas s'en acheter, ils propagent la peste parce qu'ils ne peuvent pas s'en soigner. Et puis même en se soignant avec ces produits et ces gris-gris, comme ça ne marche pas, ils ne pourraient pas guérir. Le docteur Rambert est épuisé. Il faudrait que ça cesse. Les incinérateurs marchent 24 heures sur 24 et on en a créé d'autres. La ville sent une odeur de chair brûlée, de désinfectant. C'est irrespirable car les odeurs ne partent pas parce qu'il n'y a pas de vent et en plus il y a la chaleur. Ce qui attriste le plus le docteur Rambert, c'est les enfants qui meurent dans des souffrances terribles. Ces journées de travail sont de plus en plus longues et pénibles. Un jour, il tombe évanoui. Elisabeth, avec le personnel, le soigne avec dévouement dans sa clinique. Elle réussit à le ranimer. Lui, encore dans les vapes, elle lui dit « Je vous remercie. Je vous aime. » Elle lui dit « Pas la peine de jouer la comédie. » Il lui dit « Je vous aime bien. Mais je sais que je ne pourrai pas vous aimer. » Il se sent gêné. Elle lui dit « Pas la peine d'être gêné pour ça. C'est le cœur qui décide. » Et il se met à l'aimer comme une sœur. David aime de plus en plus Margaret, qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Elle lui dit « Je vais être obligée de me prostituer parce que je n'ai plus rien. » Il lui donne tout ce qu'il peut, de peur qu'elle le fasse. Elle lui fait comprendre qu'elle n'est pas à lui, qu'elle est libre. Elle lui dit « C'est pas parce que tu me donnes de l'argent qu'il faut croire que je suis à toi. Je suis une femme libre et je fais ce que je veux. Tu comprends ?» Il ne dit rien, mais est très triste. Le soir, elle sort seule. Il ne peut rien dire et souffre de jalousie. Dans les soirées où ils vont ensemble, tout de même, ils y vont de temps en temps ensemble, elle ne fait que regarder les hommes. Il enrage, mais n'ose pas dire quoi que ce soit de peur de la perdre. Elle se fait acheter une maison à Deauville, une belle maison qu'elle veut rénover. Il accepte. Diminue de plus en plus et en plus elle le fait souffrir. Elle en pouvant plus et sentant qu'il faut de plus en plus d'argent parce qu'une partie de son argent est bloquée à cause des impôts et puis l'argent file vite avec Margaret, il décide d'aller voir Jean. Jeanne le reçoit par pitié. Il est morose, il lui demande « J'aurais besoin d'un peu d'argent. » Et soupire, il lui dit « Je ne peux pas, je suis surveillée, tu le sais. » Elle le voit triste, lui demande « Qu'est-ce que tu as ?» Il lui dit « Rien. » Il est tellement pris par son amour qu'il ne cherche même plus à lutter pour avoir de l'argent.
Autrefois, il l'aurait giflé, battu, traité de tous les noms. Mais là, il devient comme un enfant devant elle. Elle se dit qu'il a vraiment changé. Alors, tristement, il s'en va. Il s'est en allé sans rien dire. Il rencontre Adrien dans le parc. Là, il veut extérioriser son mal, sans chercher à jouer au personnage. Un personnage, il dit à Adrien. Tu ne dois pas oublier que tu es à moi. Tu vois ce que je veux dire. Et lorsque tu prends la direction du groupe, tu dois penser à moi. N'oublie pas que tu n'es rien. Adrien se sent triste. Il a honte de tomber jaune, de jouer la comédie, de prendre la place d'un autre. Mais il a peur, s'il parle à Jean, de la perdre, que David se venge sur lui aussi. Il étudie le mieux qu'il peut en prenant des cours par correspondance. Il ne veut pas décevoir Jean. Il pense souvent à la jeune fille, mais se dit que là aussi c'est impossible. Reste enfermé. Mais n'a pas envie de sortir parce qu'il a peur de ne pouvoir revenir. Mais il fait de plus en plus des rêves étranges. Oui, étranges. Avec des cris où il court, où il roule en voiture. Ses rêves lui apportent une joie terrible. Il se réveille en sueur et se demande ce que cela veut dire. Il se dit que ça ne fait pas partie de sa vie. Alors d'où viennent ces images? Des fois, il sent qu'il est contre une ombre, se serre contre, très fortement contre elle. Pour se faire caresser, elle lui donne une grande satisfaction et se mouille. La grand-mère est très douce pour lui. Elle lui parle de ses parents et lui dit qu'il prendra la place de présidence dans le groupe. Lui se sent gêné. Le chauffeur lui parle trop souvent de voiture. Lui s'en intéresse de plus en plus et demande qu'on lui apprenne à conduire. Un jour, la grand-mère le voit dans la voiture avec le chauffeur. Elle est furieuse et dit au chauffeur : vous savez qu'il ne doit en aucun cas sortir de la propriété et ni conduire. Malgré lui, Adrien a une crise de nerfs et lui dit « Je veux sortir et conduire une voiture !» devient même violent avec sa grand-mère. Il lui donne des coups de pied. On le calme en lui faisant une piqûre. La grand-mère dit au chauffeur « Vous voyez, il n'est pas guéri. Il est très fragile. » Le chauffeur se dit qu'il est très fragile et fou. Il serait incapable de diriger le groupe. Il en parle à Albert. Albert lui dit « C'est un bon à rien. C'est bon pour moi. On le mettra dans une maison. Mais vous, vous devez rester en place. Pour cela, obéir à John. » Adrien, fois remis de sa crise, a honte et demande pardon. Sa grand-mère. Il ne sait pas pourquoi il a agi comme ça. Je demande pardon, grand-mère. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis en colère. Elle lui dit, ce n'est rien. Tu es un peu fragile, comme tout le monde. Et puis c'est la faute du chauffeur. Il demande, est-ce que je serai toujours comme ça? Parce que ça me fait peur. Elle lui répond, non, ça passera avec l'âge. Et puis tu vas prendre de l'assurance. Le chauffeur aussi va s'excuser auprès de Jean et lui dit,
j'ai fait ça, c'est pour faire plaisir aux petits qui avaient besoin de se distraire.
Jean lui dit, ne recommencez plus. Vous avez bien compris?
Oui, madame.
David a peur de vieillir et que Margaret le laisse parce qu'elle semble bien aimer les jeunes gens. Un soir, il lui dit au salon,
j'ai peur de vieillir parce que je suis sûr que tu me laisseras pour prendre une personne plus jeune que moi.
Elle lui dit, mais non, mon vieil idiot. Mais elle lui dit aussi,
j'ai fait la connaissance d'un banquier charmant. Il veut m'aider.
Il lui dit furieux, je ne veux pas, tu es à moi.
Il lui dit, ne fais pas l'imbécile, tout se passera très bien. Tu seras ami avec le banquier qui est un vieux cochon.
Et elle lui fait rencontrer le banquier dans une soirée. C'est un homme de 70 ans, grand, gros, chauve, le visage bouffi avec de gros yeux. Margaret lui dit,
je vous présente Robert Watteau, une personne très bien et je tiens à ce que vous deveniez amis tous les deux.
Robert tend la main à David. David la prend, mais ne la serre pas. Il est furieux. Le frère demande,
alors, vous êtes un ami d'enfance de Margaret.
Un vieil ami, bien entendu, et plus vieux qu'elle. David ne dit rien. Banquier lui dit,
moi, je l'ai rencontrée voilà bien une semaine. Elle était désespérée parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer de son appartement. Et alors, j'ai proposé, en tout bien, tout honneur, de l'aider.
David ne dit rien. Puis une fois que David s'est éloigné, le banquier dit à Margaret,
je ne l'aime pas.
Elle lui dit, mais pas du tout.
Il ne m'aime pas.
Mais pas du tout. Il est un peu fatigué ces derniers temps. Et puis, il est très timide.
Le banquier lui dit, alors, comment fait-il pour gagner
de l'argent pour gérer ses affaires s'il est très timide?
Elle lui dit, là, c'est pas la même chose. Il se sent intimidé dans les réunions comme celle-là.
David, durant la soirée, voit du noir et regarde Margaret toujours avec son banquier danser, rire et ne faisant pas attention à lui. Une fois que la soirée est finie, que le banquier les ait tous les deux raccompagnés jusqu'à devant l'immeuble où habite Margaret, il dit au revoir en embrassant Margaret et lui demande
« Comment se fait-il que votre ami habite chez vous ?»
Elle lui dit « Parce que son appartement est en train de se rénover. Mais ne vous en faites pas, j'ai un très grand appartement et puis c'est un peu comme mon frère. » Le banquier dit au revoir à David qui ne lui répond pas. Et une fois que Margaret et David sont dans l'appartement, Margaret lui dit « Tu t'es comporté comme un goujat, et à cause de toi, il ne voudra peut-être plus me revoir. » « Oui, tu n'es qu'un goujat, et tu ne sais même pas te conduire dans le monde. » Il lui dit « Et toi, tu te comportes bien, tu te comportes comme une grue, et en plus devant moi. » Il lui dit « Et alors, j'ai bien le droit de faire ce qui me plaît. Je suis libre de mon corps qui m'appartient. Si je veux me comporter comme ça, tu n'as rien à me dire. » Il lui dit « Mais je t'aime, et puis c'est moi. » C'est moi qui t'ai jusqu'à présent. Je ne veux pas que tu te comportes comme ça, sans te cacher avec cet homme. Elle hausse les épaules et le quitte. Il souffre, il a très mal, il se dit qu'il ne veut même pas aller trop loin parce qu'il risque de la perdre. Hélas, il ne peut pas. Pour la première fois de sa vie, il aime vraiment quelqu'un et en plus une femme qui est belle, mais qui a un caractère impossible. Lorsqu'il est lucide, il se dit qu'il est tombé amoureux d'une prostituée. Oui, une prostituée. Mais c'est trop tard. Il souffre énormément. Malheureusement, il est obligé de cacher sa souffrance pour éviter qu'elle soit en colère. Elle le méprise de plus en plus. Elle ne se cache pas pour lui montrer son dédain. Elle profite de l'amour qu'il a pour lui, qu'il a pour elle, pour montrer sa puissance sur lui. Ça l'excite de dominer un homme. Lui, chez elle, reste enfermé en lui-même et souffre. Il n'ose plus lui proposer de faire l'amour de peur de la mettre en colère. Il mord d'un amour comme une pauvre petite chose qui n'est que souffrance. Comme d'habitude, il souffre et son esprit est plein de Margaret. Il ne peut plus s'occuper de ses affaires qui pourtant rapporte bien à cause des immeubles et des appartements qui sont bien loués à Paris. Dans un de ces instants de lucidité qui sont de plus en plus rares, il se dit qu'il a su mater des vieux milliardaires. Et là, une fille qui est presque rien, il ne peut pas. La maladie continue à faire des ravages. On ne sait comment la soigner. Aucun médicament. On essaye de calmer les douleurs avec des médicaments et ces médicaments commencent à manquer. Les industries pharmaceutiques pourtant marchent à plein temps. Les chercheurs cherchent toujours en étudiant les cadavres. Il y a des bénédictions, des pèlerinages, des messes. On met des cierges dans les églises. Tout le monde demande à la Vierge Marie de les sauver, comme elle l'a déjà fait.
Thank you.
Il y a tellement de morts que pour les éliminer rapidement, on ne fait plus de cérémonie pour les morts, on les met directement au four. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un corps de plus par rapport à tous ces morts? Les gens démoralisés ne pensent plus à leur mort. Dès qu'une personne meurt, on ne s'en occupe plus. Il y a tellement de morts que ça ne fait plus rien que d'apprendre la mort d'un des siens. Et puis, un de plus, qu'est-ce que c'est au milieu d'un million de morts? La mort est devenue quelque chose de banal auquel on ne peut plus rien. Oui, plus rien. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.